Je me suis réveillée un matin de bonheur. Je veille sur toi, je veille sur toi, je veille sur toi, toi, toi. Je me suis réveillée, j'ai frémi de peur, car j'ai trouvé l'envahisseur qui voulait gratter à fleur de rocher. Je veille sur toi, je veille sur toi, je veille sur toi, 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 prêt à massacrer hibou orchidée pour remplir son propre panier.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir dans Belle la Vanille, émission qui vous est proposée par l'association Protégeons le Mont Vanille Royan-Vercors. Avant tout, je vous présente tous nos vœux pour cette nouvelle année en vous souhaitant le meilleur ainsi qu'à vos proches. Bien que la conjoncture actuelle ne se prête toujours pas à nous prévoir une année folichonne, mais avec un chouïa d'optimisme et de positive attitude, il est toujours permis d'y croire. Et c'est ce que nous vous souhaitons de tout cœur, une belle et bonne année pleine de bonheur, d'amour et de grande forme. Mais revenons à cette émission dont voici le sommaire. Dans un premier temps, Séverine nous présentera son billet sur la neige dans le Vercors. Ensuite, Pierrick recevra notre invité Loïs Haber, membre de l'association Vercors Citoyen, qui rassemble les collectifs de quatre villages du massif du Vercors, qui sont Autran, Méaudre, Corançon et Villard-de-Lans. Il nous expliquera pourquoi et comment est née cette association. Enfin, dans le billet de Maud, il sera question de la voix citoyenne dans les grands projets. Eh bien, Séverine, c'est avec grand plaisir que je te laisse la parole.
Bonjour, je profite de cette émission pour vous souhaiter à tous et à toutes nos vœux pour cette nouvelle et bonne année, en tout cas je l'espère, 2023. Et oui, ça y est, nous sommes déjà en début d'année, en janvier, en hiver. Et qui dit hiver dit neige, ski, raquette, chien de traîneau. D'ailleurs, mon loisir préféré parmi tout ça, c'est les sorties en raquette avec mon mari, mes enfants, mes chiens. Enfin, pas en traîneau, hein, mes chiens normalement quoi. Ouais, enfin, sauf que cette année, c'est pas trop ça. Il nous manque l'ingrédient principal, l'essentiel de l'hiver. Il nous manque la neige. Alors, je pose la question, mais où est passée la neige? Et peut-être, quelles sont les raisons de ce manque de neige? Ben, les raisons, la douceur des températures, quand on arrive à avoir entre 15 et 16 degrés dans les stations comme Villard, par exemple. Donc, facilement 10 degrés de plus que ce qu'on devrait avoir en saison normale, quoi. Et puis les précipitations, quand elles viennent, qui viennent justement amoindrir le manteau des jeux, eh ben ça ne permet pas à la neige ni de venir et encore moins de rester. D'ailleurs, à ce jour, toutes les stations du Vercors sont fermées. Alors on peut se poser la question des solutions, des alternatives. Alors ben tout dépend de quoi on parle. Les alternatives pour les touristes, ben, par exemple, ça pourrait être de pratiquer d'autres activités comme le vélo, la trottinette, les randonnées et pourquoi pas le canicross. Si, si, j'insiste, avec les chiens, c'est sympa. D'ailleurs, les commerçants n'hésitent plus à ressortir le matériel d'été pour le proposer l'hiver. Ils s'adaptent aux conditions météo, même s'ils expliquent qu'ils ont un véritable manque à gagner. Autre solution, les canons à neige. Eh ben, allons-y, parlons-en. Qu'est-ce qu'en pensez? Et du coup, quelles sont les conséquences des canons à neige? Alors, j'ai rien inventé. Je vous cite ce que j'ai trouvé sur un site internet qui s'appelle Consoglobe. Et voilà ce qui est dit sur les canons à neige. Les canons à neige ne sont pas sans conséquences pour l'environnement, même ceux de générations plus récentes. Le bruit perturbe la faune locale la nuit. Les canons consomment de l'énergie, parfois même polluante, tandis que les bassins d'accumulation pour le stockage de l'eau enlaidissent le paysage. Et il précise que les stations françaises n'ont toutefois plus recours à l'ajout d'adjuvants chimiques. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi cette question des bassins d'accumulation pour le stockage de l'eau. Et c'est une question qui est véritablement importante, une question à elle toute seule qui est un véritable enjeu dont nous parlerons la prochaine fois. D'ici là, je vous souhaite une bonne rando dans le Vercors quand même, à vous. Et maintenant, je laisse la parole à notre invité et à Pierrick.
Caillou dans ma chaussure. Caillou dans ma chaussure.
Loïs Haber, bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour Loïs, on est content de vous accueillir pour cette première émission de l'année à Belle la Vanille sur les ondes de Radio Royan-Vercors. On est très content de vous accueillir en tant que représentant du collectif de Corançon en Vercors. et on voudrait vous torturer de questions pour tout comprendre de cette histoire et de ce qui vous a mis en mouvement par rapport à ce qui se passe sur le plateau avec un certain projet d'ordre immobilier. Est-ce que c'est possible d'en savoir un petit peu plus ? Comment le collectif est né et comment vous êtes structuré aujourd'hui ?
Alors, l'association Vercors Citoyens existe déjà depuis 2 ans, je crois, et en fait, là, elle est en train de vraiment prendre forme parce qu'il y a des projets immobiliers, vous en avez parlé, qui sont autour de l'économie du ski et l'économie du tourisme en général sur Villard-de-Lans et Corançon particulièrement, et après qui espère essaimer sur tout le Vercors, pour l'instant sur le Vercors Nord, mais pourquoi pas sur le Vercors Sud. Je pense que ça peut être quand même une belle maison de collectif. Et là, ça se réveille vraiment parce que les projets prennent forme et que tout le monde n'est pas d'accord à ce sujet-là. Donc voilà, il faut se regrouper pour arriver à parler d'une seule voix, pour avoir aussi un outil juridique, pour fédérer les gens, pour peut-être faire émerger certaines personnes qui vont faire partie de la construction du monde de demain. Donc voilà pourquoi est né Vercors Citoyens.
Donc on l'a compris, c'est un collectif qui est né dans plusieurs communes parce que visiblement il y a une grosse ambition. La neige n'est pas présente, mais visiblement elle attire toujours certains appétits. Et la question qui se pose, c'est comment est né ce petit collectif et comment il a grandi, comment il a mûri et où est-ce que vous en êtes dorénavant?
Alors comment il a grandi ? Il est donc je vous l'ai dit, il est né il y a 2 ans maintenant et là il est en train de vraiment se structurer donc collectif par collectif. Donc vous avez parlé de 3 communes, il y en a même une 4e qui est en train d'arriver à Saint-Nizier-en-Vercors. Corançon et Villard sont les plus urgents, j'ai envie de dire, en ce moment, parce que les projets immobiliers sont en train de naître de ce côté-là.
Alors ces projets, il y a quoi dedans ? Par exemple, typiquement à Villard, de quel projet immobilier on parle ?
À Villard, on parle d'un projet porté par Monsieur Parker. La société INM surtout, et qui parle d'un complexe hôtelier pour l'instant. Donc au début, ça devait être une résidence hôtelière, ce qui n'est pas les mêmes créneaux quand même, pour ne pas rentrer dans les détails. Un complexe hôtelier, c'est tout simplement un hôtel, c'est-à-dire que sur le papier, il n'y a pas de division de l'eau. Personne ne peut acheter un espace là-dedans. Après, on verra, hein, les projets changent assez régulièrement, avec l'économie qui est aussi changeante en ce moment. Et on parlait de mémoire de 12 000 m² de construction, avec 900 lits. Donc il y a des chambres hôtelières, des restaurants et aussi un pôle économique. Là, ils ont été très flous là-dessus. Pour l'instant, je ne peux pas en dire plus parce que j'en sais sincèrement pas plus.
Donc ça, c'est juste sur Villard-de-Lans.
Oui, ça, c'est juste sur Villard-de-Lans.
Donc il y a déjà 900 lits, c'est-à-dire 900 touristes potentiels qui pourraient passer la nuit supplémentaire sur Villard-de-Lans. Voilà. Et il y a également des projets sur Corançon, Autrans-Méaudre et la 4e commune.
Alors, on va pas tout attribuer à M. Parker non plus. Hein. À la base, il était censé s'investir aussi sur un projet à Corançon. Il est en train d'a priori de se retirer. Là aussi, je mets des guillemets parce que suivant les interviews qu'il fait, on voit qu'il est présent ou au contraire qu'il ne l'est pas. C'est un peu contradictoire ce qu'il dit. Nous, on avait entendu dire lors d'une conférence de presse qu'il a fait dans ses locaux à Lyon, qui n'avait rien à voir avec le projet de Corançon. Et là, sur une interview qu'il a fait il n'y a pas longtemps, il a dit que justement, il venait de se retirer parce que il ne pouvait pas construire à cause d'une petite fleur. Donc, on est, je vous avoue, un peu perdu. Ça nous encourage encore plus à.
Alors, ce monsieur est particulièrement connu, mais le projet, lui, reste flou et on aimerait ici comprendre pourquoi ces 12 000 m² vous posent problème ou du moins pourquoi ça fait bouger les gens et qu'est-ce que ça perturbe dans les équilibres qu'il y a sur le plateau, à savoir les équilibres économiques en matière d'emploi, en matière d'accès au logement et puis j'imagine la qualité de vie aussi qui risque d'être impactée lourdement. On sait que le plateau du Vercors, c'est un espace sur lequel il y a déjà une réserve naturelle. Ça interroge et dites-nous un peu plus pourquoi vous mettez en face de ce projet et qu'est-ce que vous y voyez, vous ?
Donc dans les grandes lignes, parce qu'il y a beaucoup de choses. Déjà, on n'est pas sur la réserve naturelle, hein, forcément on n'a pas le droit de construire sur cette partie-là. C'est vraiment lié au domaine de ski alpin Villard-Corançon. Qui sont pour l'instant à 90%, j'ai envie de dire, tournés autour de l'économie du ski. On le voit en ce moment, ils sont pas capables de se réinventer parce que là les pistes sont fermées, vous l'avez dit, et tout le monde tourne. Moi j'ai un hôtel, hein, je suis hôtelier restaurateur, mon hôtel tourne très bien. Il y a beaucoup de petites structures qui tournent parce qu'ils se réinventent. Le ski alpin est totalement fermé et ils passent du temps à faire des dossiers pour du chômage partiel. Donc ils ont pas, on voit pas d'envie de se réinventer. Peut-être qu'il faut leur laisser du temps. Mais en tout cas, on aimerait que ça vienne d'abord de l'économie. Voilà, pour répondre à votre question, pourquoi ça nous dérange ? On voudrait qu'il y ait avant tout une économie 4 saisons, qui fasse des CDI, qui embauche des gens du plateau, Et ensuite, s'il y a une part immobilière, il y aura une part immobilière. Mais là, on est en train de prendre les choses un peu dans l'autre sens. C'est-à-dire, d'abord, on fait des lits en espérant que ça va nous apporter de l'économie. Donc, nous, on n'y croit pas trop. Et après, dans les détails, il y a des taux de remplissage qui ont été communiqués qui sont, pour moi, intouchables. Hein, 80% à l'année, il y a personne qui dépasse les 55% à l'année. Donc, je parle sur 12 mois et c'est déjà un sacré boulot. Il y a le fait que c'est des bâtiments tellement gros que pour nous ils posent aussi problème. Si vous faites un état des lieux des gros bâtiments sur le Vercors nord, mais à mon avis sur une bonne partie de la France, au bout de 30-40 ans ils posent réellement problème parce que l'entretien est monstrueux. Donc on n'a pas envie de se retrouver avec des nouvelles verrues comme on peut avoir au pied de chaque domaine de ski alpin. Donc là on parle du Clos de la Balme à Corançon et de Côte 2000 à Villard-de-Lans. Bien sûr que Côte 2000, c'est une des zones, à mon avis, les plus moches de tout le Vercors. Ça, je vais choquer personne, c'est la vérité. Et donc, il y a besoin de faire des projets. Donc voilà, nos collectifs s'appellent d'ailleurs pour un autre projet. Le but, c'est pas de s'opposer, tout simplement. Dans ces collectifs, on y viendra peut-être après, hein, mais il y a une partie construction, imaginez le Vercors de demain, et il y a une partie veille pour laisser de la place au projet de demain, justement.
Ok. 12 000 mètres carrés, c'est quand même un investissement initial qui est assez important. On voit que les acteurs, en fait, ce ne sont pas du tout des acteurs locaux, en quelque sorte.
Ça peut pas l'être. Ça peut pas l'être. Sincèrement, j'ai construit un hôtel qui fait 780 mètres carrés, 15 chambres, c'est ridicule, hein, à côté de ça. Bah, déjà, trouver des entreprises du plateau dimensionnées pour ce genre de bâtiment, c'est déjà difficile. Après, on arrive à les emmener dans la maintenance, dans les petits travaux, dans des petits lots. Mais déjà, pour un bâtiment de 780 mètres carrés, on n'est pas trop structuré pour. Donc, ce sera en grande majorité des entreprises de la vallée. Là, on parle d'un pôle, on peut dire un pôle immobilier, parce que dedans, il y a des architectes, il y a des promoteurs, il y a des constructeurs. Donc, ils vont arriver avec leur équipe. Non, il n'y a pas de boulot dans la construction pour les gens du Vercors. Ça, faut avouer que c'est une réalité, mais dans tous les autres projets. Ce qui est plus inquiétant, c'est est-ce qu'il y a du boulot pour la vie de ces projets derrière. Parce que si on reprend les modèles économiques de ces projets dans les autres stations, le ménage est fait par des gens qui montent de Grenoble dans des bus. On fait des bus le matin, c'est invisible, hein, mais c'est incroyable. Mais c'est des gens qui montent à 5h le matin, qui redescendent à midi dans la vallée, qui sont payés pas ce qu'il faut, pour investir et imaginer vivre sur le Vercors. Ça suit la saisonnalité. Donc s'ils font, chez nous, c'est 3 mois l'hiver, janvier, février, mars, et 3 mois l'été peut-être, mais le reste du temps on en fait quoi de ces gens? Enfin, je trouve pas que ce soit une belle chose à proposer à des travailleurs, quoi.
Ça semble pas un avenir très désirable, effectivement.
Il me fait pas rêver, moi, celui-là, j'avoue.
Du coup, à Vercors Citoyen, quand on se mobilise, qu'on s'organise, qu'on crée des collectifs sur les différentes communes, comment on l'imagine, le Vercors, et comment vous vous positionnez en face de ce projet, de ces projets pour, j'ai envie de dire, éviter que ce qui semble être sur les rails arrive à son terme.
Sincèrement, c'est pas évident parce qu'on a tous des intérêts divergents, notamment l'arrivée de Monsieur Parker. Alors, je pense que c'est lié au Covid, c'est lié à la vie qui évolue énormément, hein, ces derniers mois. L'immobilier est vraiment monté. Et il y a des zones, j'en parlais de la Côte 2000 tout à l'heure, qui est quand même pas une belle zone. Les appartements ont monté de 20 à 30% et les gens espèrent que ça va encore monter. Donc sincèrement, c'est dur de les fédérer pour faire en sorte que Tony Parker imagine un projet plus petit, quoi, parce qu'il voit la valorisation de leurs biens, tout simplement. Donc c'est pas si évident d'emmener tout le monde dans la construction du monde de demain.
C'est un raisonnement assez capitalistique, si je puis me permettre.
Ouais, mais en fait, c'est la réalité. C'est la réalité.
Sauf que le Vercors, pour l'instant, il est vert, il est habitable. Et demain, avec ce genre de projet, on peut se poser la question. Nous, on voit à Saint-Nazaire, en Royan, on a dû se battre contre la carrière parce qu'effectivement, les modèles de développement ne prévoient que de la construction à partir de granulats, de béton et de technologies à grand renfort de technologie. Et c'est pas ce qui est bon pour notre environnement.
Ben, vous êtes un exemple pour nous. On est en train justement de se renseigner sur la manière dont vous avez œuvré pour essayer de s'en inspirer. Les matériaux, c'est une vraie question. Et voilà, pour.
Est-ce que c'est pas par là qu'on pourrait amener le débat sur le plateau en disant demain on le construit comment ou avec quoi?
On parle pas la même langue avec ces gens. Je vous promets, on parle pas la même langue. C'est moins de 900 lits, ils vont pas. Enfin, moins de 130 logements, c'est des boîtes, ils y vont même pas. Donc déjà, on peut pas se comprendre. Parce que nous, quand on dit, nous, on est OK. En fait, on leur a posé la question, est-ce que vous allez bien construire en RE 2020? Je sais pas si ça vous parle.
Oui, en respectant la réglementation thermique de 2020.
Voilà, ils étaient pas capables de nous répondre là-dessus. Ah non, mais là, vous êtes trop dans le détail, on sait pas. Et on a appris après que le projet Corançon avait été posé in extremis, le permis, avant la mise en place de cette RE 2020, alors que leur projet n'était pas prêt du tout, mais justement pour bénéficier de la RT 2012, qui est pas catastrophique, mais qui est plus à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui, quoi.
Alors moi, j'ai toujours eu beaucoup de problèmes avec les réglementations, parce que les réglementations, généralement, elles sont là pour nous dire ce qu'on sait faire. Elles sont pas là pour imaginer ce qu'on veut pour demain. Mmh. Concrètement, dans une réglementation thermique, on va préciser qu'un bâtiment consomme tant de kilowatts par mètre carré et par an. Aujourd'hui, quand on voit l'état de la planète, moi, je serais plutôt d'avis à ce qu'on dise qu'on fait des bâtiments à énergie positive plutôt que des bâtiments qui consomment de l'énergie.
Bienvenue dans notre collectif, on pense pareil.
Mais comment amener ces réflexions-là et comment vous fédérer sur le plateau pour justement faire voir que cet autre monde, non seulement il est désirable, mais il est possible parce que tous ceux qui y croient, ils sont présents.
En fait, c'est une question de vision. Et on en a parlé juste avant l'émission, il y a des gens qui ont une vision très économique. Et à partir du moment où on a une vision extrêmement économique, on peut pas intégrer ces éléments. Parce que ça va... Voilà, je vous dis, j'ai un hôtel-restaurant. Pour arriver à l'autonomie, sincèrement, ça coûte. Ça coûte énormément. Le gain, il est ailleurs, mais en tout cas, il n'est pas dans l'économie parce que ça coûte plus cher à l'entretien, ça coûte plus cher à la mise en place. C'est des choses qu'on ne sait pas toujours bien valoriser non plus d'un point de vue économique. Donc, ils vont pas du tout dans cette direction-là, c'est sûr. Ouais.
Que désire Vercors Citoyen aujourd'hui et comment on pourrait venir... déjà comprendre la problématique un petit peu plus dans le détail qu'on ne peut le faire à la radio et comment peut-être vous soutenir. Est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que vous êtes structuré de manière accessible pour tous les gens du Royan qui voudraient se renseigner et qui pratiquent régulièrement le plateau?
Alors il y a plein de réponses. Déjà, si les promoteurs m'entendent, s'ils réduisent le projet de moitié et qu'ils font une RE 2020, ça va enlever la moitié des personnes dans notre collectif parce que c'est juste ce qu'on veut. On a compris qu'il y avait un développement. Ensuite, sur Vercors Citoyen qui est en gestation, qui est en train de vraiment de se structurer, qui sera prêt à mon avis à partir de fin janvier. On commence déjà à bien travailler pour essayer de sortir du livrable. Il va y avoir plusieurs pôles, mais dont un pôle veille. C'est pas de l'opposition, c'est juste de la veille sur les projets actuels. Pour vérifier que c'est bien dans notre imaginaire, quoi, tout
simplement. Comment ils se construisent, comment ils sont documentés, quelles sont les échéances.
Exactement, avec un outil juridique derrière, hein, pour quand même faire respecter ce qui doit l'être. Et il y a un autre pôle qui est construction. Donc imaginez, le Vercors, le mot demain a été bien croqué par justement les promoteurs, mais voilà, le Vercors de l'avenir, le Vercors qu'on va laisser à nos enfants. C'est un peu classique comme thème, mais c'est ça. Et on prend on fait des groupes de travail sur tous les domaines, donc le déplacement, le tourisme, l'urbanisme. Et en réalité, on se rend compte qu'il n'y a rien à créer parce que tout a déjà été bossé par le parc, par le PADD, par tous les documents qui existent. Il faut juste
donc
les lire
le PADD,
et les structures. Mais nous, on est d'accord avec le PADD.
Le PADD, c'est quoi pour nos auditeurs?
Le plan d'aménagement développement durable. Donc c'est censé être la base du PLU.
Et on n'a pas franchement le sentiment que les projets proposés sont en adéquation avec ce plan.
Le problème du PADD, c'est qu'il est juste là à titre instructif, quelque part, c'est une base de travail.
C'est un cadre de réflexion.
C'est un cadre de réflexion, et pourtant, c'est de lui que découle le PLU, qui pose vraiment les bases plus sérieusement.
Le PLU étant le plan local d'urbanisme, voilà, qui permet de décider de l'occupation des différentes zones.
On demande tout simplement l'application du PADD, et en fait, il n'y a que des non-sens, quoi, tout simplement.
On a connu cette situation dans un passé
lointain. Notre combat n'est pas le premier dans le genre. Je pense que c'est l'histoire des montagnes, c'est l'histoire des lieux. Plus on cherche, on va en Bretagne, on trouve exactement les mêmes problématiques. C'est des lieux qui sont sauvages, qui ont été désertés à une époque, qui n'intéressaient personne. Donc il y a une vie qui s'est installée, qui est assez vertueuse, je pense. Et maintenant, avec l'évolution, avec le réchauffement climatique, c'est des lieux à très haute valeur qui sont... Enfin, il y a des personnes que ça intéresse, quoi, c'est sûr.
Et donc, vous avez un site internet?
Ouais, vercorscitoyen.org.
C'est ça?
Ouais.
On peut adhérer en ligne?
Vous pouvez adhérer en ligne.
On peut aller consulter vos statuts?
Exactement.
Savoir ce que vous défendez?
Tout est là.
On peut avoir accès à vos prochaines dates et prochains rendez-vous?
Ouais, vous pouvez nous envoyer un message pour participer à des groupes de travail, parce qu'on aura évidemment besoin de forces vives pour travailler, pour sortir du livrable. Quand je parle de livrable, en fait, l'ambition, ça va être... on n'est pas les décideurs, on n'est pas élus, pour l'instant. C'est pour ça que je parlais de faire émerger tout à l'heure. Il y a peut-être des gens qui vont émerger de ces groupes de travail pour se présenter aux prochaines élections, et je leur souhaite.
Nous, on a vu ça aussi à Venise, voilà. On a vu des gens se présenter pour des élections, malgré eux.
Alors ouais, il n'y a pas d'ambition politique. Nous, c'est juste arriver à fédérer les citoyens, que aussi... quelque part, je crois, rendre service aux élus pour que les citoyens parlent plus que d'une voix, qu'ils arrêtent de se faire interpeller partout dans la rue sur les sujets du moment pour lesquels ils ne sont pas toujours responsables non plus. Donc voilà, c'est des groupes de travail, fédérer les gens, calmer aussi, parce qu'il y a des choses qui sont un peu folles, enfin un peu extrémistes parfois, voilà, vous imaginez ce que ça peut être. Donc voilà, mettre tout le monde dans un groupe de travail et fédérer.
Et donc le prochain rendez-vous pour vous, c'est quand ?
C'est l'AG, samedi soir, ce samedi, 14 janvier.
Samedi 14 janvier, à quelle heure ?
Bureau, à 19h30, salle Saint-Donat, à Lens-en-Vercors.
Ok, je pense qu'on le rappellera tout à l'heure en fin d'émission. Eh ben, merci de nous avoir expliqué que vous vous mobilisez et de nous avoir éclairé un petit peu sur les différentes pistes d'aménagement du Vercors de demain, du Vercors du futur ou du Vercors qu'on va donner en héritage à nos enfants. Hein, faut pas oublier que on n'hérite pas de la terre de ses parents, mais on l'emprunte à ses enfants. Et puis, ben, j'espère à bientôt. Si vous voulez créer des liens, on est là pour ça. N'hésitez pas. C'est pour ça que Bella Vanille a été créée. C'est pour garder le micro ouvert. Et on a déjà passé régulièrement la parole à des collectifs qui se montent, qui se créent et qui cherchent à se faire entendre.
Eh ben, merci à tous et bravo pour l'initiative.
Eh ben, merci de participer avec nous. Vous en êtes. Je vais maintenant passer la parole à mes camarades. C'est à qui ? C'est à Maud, si je ne dis pas de bêtises. Maud, nous t'écoutons.
Oui, merci Pierrick. Ben, bonjour à tous, donc, chers amis, chères auditrices et auditeurs, et malgré l'actualité particulièrement morose, je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023.
Oui, aujourd'hui, Maud, tu veux nous parler de la voix citoyenne dans les grands projets.
Cette semaine, nous voulions évoquer, et une fois n'est pas coutume, l'actualité nationale. En effet, notre première ministre, Elisabeth Borne, présentera son projet de réforme des retraites le 23 janvier devant l'Assemblée nationale. Et de nombreuses contestations s'élèvent, notamment face au recul de l'âge légal à 64 ans. La première marche de contestation est lancée par les syndicats, unanime pour le 19 janvier, et la deuxième est organisée par des forces de gauche le 21 janvier à Paris, avec la possibilité de trouver un transport par car en direction de la capitale sur busmarche.fr.
Et la voix citoyenne dans tout cela ?
Eh bien, que reste-t-il aux citoyens censés vivre en démocratie lorsque, dans le programme présidentiel de 2017, il était écrit noir sur blanc que la réforme ne toucherait pas à l'âge légal de la retraite ? La Vox Populi avait donc choisi un président qui s'engageait à ne pas toucher aux 62 ans. Que reste-t-il aux citoyens quand les sondages donnent majoritairement le choix des Français contre ce projet ?
Donc, il ne reste qu'à faire grève et manifester. Et pour ceux qui ne seraient pas convaincus et qui pensent que cette réforme est nécessaire,
Je les invite à consulter le rapport du Conseil d'orientation des retraites qui déclare que le système tiendrait en conservant l'âge légal à 62 ans. En effet, il ne faut pas oublier qu'en reculant l'âge de départ à la retraite, on induit également une montée du chômage pour les seniors et un âge anticipé de départ à la retraite pour les personnes ne pouvant pas exercer pour des questions de santé. Donc l'espérance de vie en bonne santé en France est de 62 ans pour les femmes et 64 ans pour les hommes. Et avec un système de santé défaillant, elle risque de reculer. Sur les projections de chiffres du gouvernement, des députés s'insurgent et disent qu'ils sont faux. Mathias Tavel, député de Loire-Atlantique, compare certains chiffres à une personne au SMIC qui risquerait de payer momentanément 77 euros de plus que sa paye, tout en ayant 800 euros de réserve sur son compte. Pour vous faire une idée, je vous invite à rechercher les arguments et les contre-arguments en la matière.
Et y a-t-il d'autres domaines où tu vois un recul de la voix citoyenne ?
Eh bien oui, je fais aussi le lien avec les luttes locales contre les grands projets inutiles et le recul des procédures d'enquête publique, celle-là même qui a permis d'informer et fédérer le collectif pour la protection du Mont-Vanille. La plupart des projets sont menés à terme. Alors même si les enquêtes publiques sont discutables parce que biaisées dans nos institutions par des personnes qui soutiennent les projets industriels, le gouvernement tente de les faire disparaître au profit d'une simple consultation du public par voie électronique.
Oui, c'est une régression depuis la loi Essoc, dite loi pour un État au service d'une société de confiance. Et là, Maud, tu dis que tes petites antennes s'allument ?
Eh oui, tout comme le législateur nomme les ICPE installations à caractère de protection de l'environnement, alors qu'il faudrait entendre industries qui vont apporter à coup sûr des nuisances à l'environnement, j'entends déjà dans l'Essoc loi pour un État à qui il ne faut surtout pas faire confiance. Et pour reprendre une expression de Gilles Martin, professeur de droit, la marque des régimes de non-droit, ça a l'apparence du droit, mais ça n'en est pas. Donc je vous invite à lire sur le journal Basta, la crise de l'enquête publique révélateur d'une démocratie locale à l'agonie, qui remonte à 2019, mais qui est toujours d'actualité pour prendre conscience de la complexité de nos institutions, qui veulent montrer le visage de la démocratie participative, mais en corrompre les bienfaits. C'est un cercle vicieux, les citoyens se sentent dépossédés et ne veulent plus entendre parler de politique qu'ils jugent corrompue. Je vous invite donc à suivre le mot d'ordre de Stéphane Hessel, indignez-vous, pour que votre voix citoyenne porte.
Dans notre association Protégeons le Mont-Vanille Royan-Vercors, nous pouvons témoigner qu'une lutte peut être efficace.
Oui, elle a aussi pour conséquence de vous construire en tant que citoyen et militant. Alors aujourd'hui, je vous invite à soutenir le collectif Vercors Citoyens, à qui l'on confisque un projet de vie pour satisfaire l'appétit financier de personnes déjà nanties, au mépris du principe de précaution écologique.
Alors donc,
Vercors Citoyens organise son AG constituante samedi 14 janvier 2023 à 19h30, salle Saint-Donat à Lens-en-Vercors, et vous pouvez donc trouver plus d'infos sur vercorscitoyens.org.
Vous pouvez retrouver les actions de notre association sur le site pourvanille.fr. Et si vous désirez que votre actualité soit évoquée, n'hésitez pas à nous contacter sur ensemble@pourvanille.fr. Voilà, cette émission arrive à sa fin. Elle a été présentée par Séverine, Maud, Pierrick et moi-même Nadine. Alain Ichouka était en régie. Nous vous remercions vivement d'avoir été à notre écoute et vous donnons rendez-vous le 8 février prochain pour de nouvelles aventures. Afin de conclure en musique, nous vous proposons d'écouter un titre d'Alain Bachung, La nuit, je mens.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait briller. J'étais gants de crin, geyser. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulous, dynamiteur d'accueil.
nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore. On m'a vu dans le Vercors, sauter à l'élastique, voleur d'enfort au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore